Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 22 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Paul Gara et je suis accompagné de Hammer. Bonjour Hammer.
Bonjour Paul Gara, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, pas trop mal, hein. On va survivre à cette demi-journée de marathon d'interview. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Silex, qui est venu en force puisque nous avons Florian et Pierre. Bonjour Florian, bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc Silex avait été interviewé rapidement par Cyrus l'année dernière lorsqu'il présentait Dreamscape avant la campagne de financement. Donc maintenant, ils vont pouvoir nous en dire plus sur le jeu et puis sur leur projet. Avant, nous allons débuter par un petit fil rouge spécial Cannes. Donc pour vous, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Jeu.
Définitivement jeu.
Plutôt bière ou champagne ?
Les deux.
Champagne.
En même temps, les deux ?
Ah ouais.
Un petit cocktail.
Et puis d'autres.
Plutôt camping ou Martinez ?
Martinez, ouais, on va être honnête, Martinez.
Ah, du coup, je vais dire camping.
Plutôt off ou plutôt dodo ?
Plutôt un peu entre les deux. Hein.
Off du off.
Ouais.
Off du off,
ouais.
Donc tu dors pas pendant 4 jours ?
Si, mais c'est un autre off et d'autres dodo, quoi.
D'accord. Plutôt salon ou festival ?
Festival.
Ouais, c'est bien ça.
Plutôt pro ou plutôt perso ?
Plutôt pro, quand même.
Ouais, pareil, allez.
Alors, merci pour la réponse à ces petites questions. Donc, on va démarrer avec le gros projet de l'année dernière, pour faire un petit point. Donc, Dreamscape, que vous aviez présenté juste avant le Kickstarter qui a eu lieu en mars et qui a plutôt bien fonctionné. Donc, est-ce que vous voulez revenir un peu avec vous sur la campagne de financement participatif? Donc du jeu, bon, vous allez nous rappeler un peu le jeu bien sûr, et puis une campagne qui a plutôt bien fonctionné à un moment où d'autres n'ont pas eu cette chance. Donc on voudrait aussi avoir un peu vos astuces parce que c'est votre premier jeu Dreamscape et un financement participatif plutôt réussi. À un moment, on a un peu l'impression qu'il y a un engorgement dans Kickstarter. Donc dites-nous un peu quelles ont été les clés de votre succès.
Il y en a sûrement plusieurs. Il y en a sûrement qu'on n'a pas identifié clairement. Maintenant, il y a le fait que peut-être qu'on avait fait un buzz. En tout cas, on a présenté le jeu depuis un petit moment avant et qu'on avait des personnes qui suivaient la campagne et qui voulaient voir ce qu'on avait à présenter. Il y a aussi le fait qu'on a pu s'entourer de bonnes personnes pour nous aider sur la stratégie de la campagne aussi, des choses comme ça. Une personne avec qui moi j'avais pu déjà travailler sur d'autres campagnes Kickstarter précédemment. Il y a aussi le fait qu'on a peut-être pu amener un petit peu de rêve et puis un jeu particulier avec du rêve, une thématique qui visiblement est porteuse en ce moment, mais sur un type de mécanique et un type de jeu qu'on n'a pas dans cette thématique-là jusque-là, puisqu'on a surtout des jeux d'ambiance, de communication, de dessin, de choses comme ça. Là, on a un jeu vraiment pour joueurs, mais dans un univers léger. Et je pense que ce renouveau fait aussi du bien.
Il y a aussi des illustrations qui sont très originales, qui apportent. Enfin, on sait que le visuel a beaucoup d'importance quand même pour les joueurs.
Bah, ça s'est vu très vite. On a eu des retours très particuliers sur l'appréciation des illustrations et la qualité de ces illustrations. Et ça, c'est évidemment un atout, parce que le premier regard qu'on a, c'est d'abord les illustrations avant de s'intéresser aux mécaniques et au jeu en soi. Donc, évidemment, c'était un atout primordial.
Et encore une fois, même pour ceux qui sont pas sensibles à ces illustrations-là, le fait qu'elles soient différentes et qu'on ait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir 50 000 fois par an, ça peut donner envie et en tout cas rendre curieux à se dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui a une tête un peu différente ? Allons voir ce que ça donne. »
Nous, on le rappelle, l'auteur de Dreamscape, c'est...
C'est David Oslos et c'est l'illustrateur.
D'accord, donc en plus, donc il a vraiment conçu son univers
exactement,
c'est un tout.
Quand il est venu me présenter le jeu initialement, il avait déjà cet univers et cette âme particulière qu'il voulait donner au jeu. Et ce qui a entériné notre collaboration, c'est justement qu'on a pu rentrer dans cet univers-là et puis continuer le jeu, continuer de le développer et de faire tout ce qu'on a pu faire dessus après, en respectant cette âme particulière et la vie qu'il voulait lui donner.
Donc, vous avez lancé la campagne en mars 2018, avec, je pense que ça a été financé dans l'heure.
Ouais, dans
40 minutes.
Ouais, 40 minutes.
Pour être précis.
Ouais, c'était assez inattendu et assez extraordinaire, mais effectivement, enfin, comme l'a dit Pierre juste avant, c'était énormément de travail aussi en amont et on avait un gros enjeu, mais on avait surtout rencontré pas mal de mauvaises expériences de d'autres entreprises françaises qui s'étaient lancées sur KS et qui avaient échoué juste avant. Et évidemment, ça met une pression supplémentaire au moment du lancement, surtout pour une jeune entreprise comme la nôtre. Et évidemment, les enjeux sont extrêmement importants, et toutes ces années de préparation et tout l'investissement qui a été apporté, c'est d'autant plus de pression à ce moment-là. Donc on était évidemment d'autant plus fiers et rassurés que 40 minutes plus tard, on n'avait pas à se poser la question de comment ça allait se passer par la suite, quoi.
Et pour reprendre juste un exemple récent de Kickstarter, est-ce qu'il y avait un seuil où, même si le jeu avait été financé, vous auriez considéré que la campagne était un échec? Je pense à Badass Force qui avait réussi mais qui s'est arrêté parce qu'en fait il visait vraiment plus haut.
En fait, je pense qu'il y a des doubles visions sur ce qu'est le Kickstarter et sur la manière de pouvoir le faire, et il y a plusieurs approches sur le seuil de financement. Maintenant, il y a aussi un côté, il y a forcément le show sur le Kickstarter qui est important. Et comme tout bon show, il faut pas qu'on voit les ficelles. Et quand justement on arrive à quelque chose où on voit les ficelles, là on est déçu parce que le tour de magie il prend pas et ça passe pas. Et voilà, évidemment que si on veut être complètement honnête, à 8000, si on faisait juste 8000, le jeu on pouvait pas le sortir. On l'aurait peut-être pas annulé, mais on était dans la merde. Clairement. Maintenant, nous on avait un seuil en tête de se dire ouais. Clairement, on était, je pense, aux alentours de 50 000 à se dire, ouais, si on passe les 50 000, on sait que, voilà.
Ça sera bien. Ouais.
On sait que ça passera. Maintenant, c'est pas la folie, mais ça passera et on peut essayer de continuer. Tout est fait après pour que ce seuil de financement, il soit atteint le plus rapidement possible, de manière à ce que, pendant la campagne, après, on puisse animer les choses, continuer le show, continuer de faire rêver les gens avec des nouvelles choses, etc. Et parce que c'est pas parce qu'au bout de 40 minutes on avait le seuil de financement que ça veut dire que la campagne aurait été un succès. C'était la première étape de fait. Mais il fallait tout le reste après. Il faut que les gens restent pendant la période de ventre mou, qu'ils aient pas envie des questions à se poser, à se dire oui c'est bien, mais finalement il y a peut-être autre chose ailleurs. Qu'on leur montre qu'on en avait encore sous le pied et qu'on pouvait faire d'autres choses super, ouais, en développant tout ça.
Surtout qu'on sortait en même temps qu'il y a des gros mastodontes qui étaient quand même présents, qui sont écroulés. Et c'est aussi un peu ce qui a permis aussi à Silex d'être assez reconnu avec toute la distance qu'il faut prendre avec cela. Mais c'est de réussir à ce moment-là dans un contexte extrêmement particulier, et tout au long de l'année ça a été très difficile pour les entreprises françaises ou même les entreprises en général qui se lançaient sur KS avec des jeux avec beaucoup de qualité tout autant. Et effectivement ça nous a permis de pouvoir nous installer un petit peu et d'avoir une petite reconnaissance avec tout le recul nécessaire.
Vous parliez du community manager. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a vraiment un rôle clé? Oui.
Alors, on parlait pas du community manager, puisque le community manager c'était bon en l'occurrence, puisqu'on faisait un peu tout. Mais on avait quelqu'un aussi qui nous aidait
pour animer la campagne,
pour le côté plus stratégique, plus en fond sur des questionnements de. Ouais. On part sur ça. Est-ce que ce stretch goal là c'est le bon stretch goal pour maintenant? Est-ce que on élargit un petit peu les paliers entre les stretch goals par rapport à ce qu'on peut faire, nous on vérifiait sur la production, sur les coûts, etc., sur ces choses-là, et puis voir comment on pouvait les placer. Et lui, il nous donnait aussi toutes ces indications, ces préconisations sur, ok, ce truc-là, à ce moment-là de la campagne, c'est peut-être pas le meilleur truc à sortir. Par contre, faudrait mettre plutôt celui-là là. Ça faudrait parler de ça sur, comment dire, même si on écrivait toutes les choses sur la communication, sur comment les écrire à des moments et quelle chose mettre en avant plutôt que telle autre, etc. C'est bien d'avoir ce conseil-là, et puis c'est d'autant mieux d'avoir une troisième personne
avec un peu de recul,
Complètement externe, et pour trancher aussi à des moments sur ok on sait pas trop parce que évidemment que il y a du travail, il y a derrière toutes ces choses là, mais en plus il y a le côté expérimental des fois aussi, c'est à dire que ok nous ça s'est super bien passé. Vous prenez l'exemple de Badass Force et Funky Jeep qui sont des gens adorables et super impliqués dans leur truc, qui ont pris des sauts de trucs négatifs alors qu'ils ont la même envie, la même implication pour faire des bonnes choses dans leur jeu.
Ce qui est ça, en fait, faut bien comprendre que dans une campagne KS, c'est extrêmement dur à vivre. Enfin, les émotions sont extrêmement violentes. Il y a des risques extraordinaires dedans. Enfin, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Et il y a des tensions avec des commentaires à gérer, avec une attitude à avoir, avec des positionnements. Même il y a de l'affect qui arrive très très vite. Hein. On se sent très vite mis en porte-à-faux. Et d'avoir une personne qui est là pour justement reposer les choses en disant attends, prendre la distance, ne t'inquiète pas.
Dédramatiser aussi un peu parce que les commentaires ça s'envole vite en fait. Hein, avec les réseaux sociaux, les gens se rendent pas compte.
Et relativiser aussi tout ça effectivement.
Et c'était vraiment une aide parce que quand on est vraiment dans le dur et qu'on est dedans, on dit mais qu'est-ce que je dois changer? Est-ce qu'il faut que je remette en cause? Est-ce qu'il faut que j'optimise ça? Et effectivement, d'avoir une personne qui a déjà cette expertise et ce recul, qui ne le vit pas comme nous on peut le vivre, parce que c'est évidemment on porte notre bébé, mais c'est une entreprise derrière et c'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est du temps. Et quand on a une personne qui fait tout ça, évidemment, ça nous permet de pouvoir mieux appréhender effectivement ces problématiques en cours de pop. Mais c'est dur, hein, il faut bien le comprendre, KS c'est pas allez-y, pointez-vous et vous allez réussir. C'est vraiment très très dur, émotionnellement c'est très dur, et c'est de la préparation en amont et encore après. Hein.
Enfin, et puis pendant aussi c'est des heures à dormir peu, puisque faut être sur le pont à peu près tout le temps. Pour rebondir sur les choses qui se disent, pour faire les bonnes actus, dire les bonnes choses, puisqu'on essayait aussi d'être créatif dans les actus, c'est-à-dire d'être factuel sur ce qu'on débloquait sur les stretch goals, mais en même temps d'apporter toujours du rêve, des petites histoires qu'on se cassait la tête. Et il y a plein de moments où on se disait, on a écrit ce truc-là, on a essayé de faire un truc chiadé où on part dans le rêve, et en fait ça se trouve ils s'en foutent, quoi. Et nous on passe des heures à écrire ça, et puis derrière voilà. Donc c'est sûr que chaque fois qu'on a eu des commentaires de c'est bien, continue de nous faire rêver, bah nous ça fait chaud au cœur, on avance et ça fait du bien. Et puis il y a des moments avec la fatigue en plus, etc. Où les moindres trucs un peu négatifs, on se dit oh, mais merde, mais on essaie de faire des trucs bien et là et on se prend ça. Et donc effectivement sur le peu qu'on s'est pu prendre, ce qu'on voit comment on le vit, bah pour d'autres qui ont pu avoir donc notamment les Funky Sheep des trucs super négatifs, mais c'est hyper, ouais, ça peut ça être hyper mal. Destructeur quoi.
Ça fait mal.
Alors, on sent bien que ouais. C'est une période très intense, un exercice ouais. Intéressant, mais à la fois un exercice d'équilibriste et d'endurance à la fois. Donc, fort heureusement, la campagne s'est bien passée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et où on en est avec Dreamscape alors?
Alors où on en est, comme vous le savez, pendant la campagne, on avait deux extensions qui sont offertes avec le pledge de base, deux autres extensions. Qu'on a dévoilé après. Évidemment, sur l'engouement de la campagne, on dit non, on va le faire safe, on va faire peut-être moins d'extensions des bibliothèques. Allez, celle-là, on est capable de la faire aussi, on y va, et puis, bah, c'est pareil, toutes les énergies positives qu'on reçoit, allez, on veut leur en donner plus, on veut y aller. Et puis, nous, on a envie de triper aussi, parce que ces extensions, si on en parle et si on veut les sortir, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Et puis après, il y a le moment où faut développer et faire tout ça en entier. Bon. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on essaie de fignoler vraiment tout ça. Parce que c'est le premier jeu qu'on va sortir et on veut pas juste dire on a fait une campagne et puis après bah on nous oublie et puis voilà. Donc c'est la première pierre à l'édifice Silex qu'on veut poser et on veut qu'elle soit bien faite. Donc du coup là clairement on en est à deux extensions qui sont complètement terminées, dont on a publié les règles il y a une semaine, quelque chose comme ça, qui sont Créatures de rêve et Blanc comme neige. Créatures de rêve l'extension dans laquelle on a des animaux qu'on va appâter et qui vont venir nous aider avec des petits pouvoirs différents et qui vont embellir aussi les paysages qu'on fait. On a l'autre extension qui est Blanc comme neige, dans laquelle, je sais pas si vous vous souvenez du jeu en particulier, mais les fragments de rêve qu'on a dans Dreamscape, il y a différentes couleurs. Il y a notamment des fragments blancs qui servent au déplacement dans le jeu de base. Dans Blanc comme neige, c'est clair, ça devient de la neige. Donc ça veut dire que maintenant, on a des paysages qui sont de la neige, en plus des paysages qu'on fait d'habitude, et qui ont une particularité parce qu'on voulait à chaque fois que chaque extension apporte quelque chose de nouveau, que ce soit pas juste on met des cartes de plus dans les cartes qu'on fait de base et puis on voit ce que ça donne. Donc ces cartes là on ne les crée pas de la même façon en les piochant comme au départ. Ces cartes là elles sont sur une piste à côté et c'est une course pour tout le monde, donc ça ouvre aussi le jeu à plus d'interactions aussi, c'est-à-dire qu'on donne des touches différentes, des approches différentes entre avec chaque extension et notamment du coup ces cartes là dès que quelqu'un peut la faire, sa carte la complète. Ça veut dire que du coup un autre peut être en train d'essayer de la compléter et puis se faire avoir au dernier moment. Et avec cette carte là on a d'autres pouvoirs qui utilisent la neige, et la neige on peut la faire fondre, et chaque fois qu'on collecte de la neige il y a le bonhomme de neige qui vient dans notre Dreamscape, et lui chaque fois qu'il se déplace il laisse une traînée de neige derrière lui, ce qui nous permet d'accumuler plus de neige et de récolter tout ça comme il faut. Donc ça crée un visuel un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude et ça crée une identité un peu particulière. Donc ces deux extensions, Créatures de rêve et Blanc comme neige, sont complètement terminées. Les deux autres extensions, qui sont La Corneille Rouge et Will of the Wisp, sont en gros, on va dire, à 80% d'être finalisées. Donc, on est en train d'avancer encore plus vite, puisque là, ça se précise sur la fin. Et donc, effectivement, en termes de livraison du jeu, on n'a pas encore toutes les informations parce que la priorité c'est de finir ça comme il faut, etc.
Vous pensez premier semestre 2019 quand même?
On pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour que ça arrive au plus vite.
Okay. Et puis il faut
nous
bien
voulons une date.
Oui, mais nous aussi. Mais
voilà. Non, mais c'est pas si évident que ça. Ouais, parce qu'il y a des éléments qui sont aussi. Enfin, il faut bien comprendre. En plus, on a choisi de faire un parti très fort sur du bois. Donc tous les éléments à l'intérieur sont du bois. C'est du bois qu'on a choisi. C'est du cerisier. C'est pas du contreplaqué. C'est vraiment du bois du ferme. On veut des peintures léchées dessus, qui ne sont pas des couleurs Pantone classiques. Donc ça demande des complexités. Ça demande aussi.
Ça demande beaucoup d'aller-retour, surtout pour vérifier que ça va. C'est les bonnes nuances.
Vous faites fabriquer où ?
Alors, on a, ça sera Panda qui va assembler tout le jeu
en Chine. Donc.
Et voilà.
D'accord.
Mais et derrière, je rajoute un petit élément aussi parce que on a tout le développement, mais on a aussi, il faut bien comprendre, on a souvent tendance à dire ouais, les figurines c'est super, le plastique c'est génial et ça marche super fort. Le bois est d'une complexité incroyable aussi parce que simplement les éléments qu'on a choisis, simplement Pierre parlait du bonhomme de neige dans Blanc comme neige, le bonhomme de neige, c'est un élément qui est tourné et qui est rassemblé. C'est-à-dire que lui aussi, comme d'une figurine, elle est composée de plusieurs éléments qu'il faut pouvoir manutentionner, rassembler, etc. Qui certes c'est pas des moules, mais chaque élément qui est tourné doit avoir aussi sa préparation machine et c'est différent, mais c'est tout autant complexe.
C'est des contraintes différentes.
Aussi très long. Et tout ça, bah, ça demande aussi des ajustements de taille, parce que c'est des précisions, puisqu'on est sur de la 3D, et que si les tailles ne sont pas respectées, si les couleurs sont pas respectées, bah, on perd le charme de tout ce qu'on veut créer autour de tout cet univers onirique. Donc, tout ça, c'est énormément de temps, énormément d'investissement. Mmh. Alors, en plus, on a choisi, parce que, bah, pour des contraintes de production et de coûts, d'aller en Chine, bah, c'est parce qu'on a un jeu qui est cher ou pas cher, mais en tout cas, qui est par rapport à ce qu'il a à l'intérieur, il faut aussi qu'on puisse trouver des moyens d'avoir des leviers pour pouvoir s'en sortir correctement. Ça reste une entreprise. Et que ce bois-là, on le veut de qualité avec le travail nécessaire et avec les ajustements qui vont faire en sorte que ce soit aux justes qualités de ce qu'on nous on estime être normal.
Ok, donc là, sur le salon, on peut jouer à Dreamscape.
Et les deux extensions.
Et donc, vous avez d'autres projets. Enfin, moi, je sais, à titre perso, j'ai pu jouer à un proto il y a déjà un petit bout de temps. Donc, je sais pas si on peut y jouer. Là,
Tu veux nous en parler ?
Non, je vous laisse.
Alors, il y a deux protos qu'on peut essayer sur le salon, mais plus l'un que l'autre, puisqu'on a un de ses auteurs qui est avec nous pendant toute la durée du salon, qui est Julien Protière.
L'auteur de Dream On notamment.
De Dream On notamment, de Créo, de Check, ouais, d'autres choses. Julien Protère, donc on a un jeu qui est avec lui et Jean-Philippe Sahu, qui s'appelle Roméo et Juliette. Et qui est un jeu coopératif à deux. Puisque forcément, Roméo et Juliette, l'un de nous est Roméo, l'autre est Juliette. On va tenter de faire grandir l'amour en combattant quelque part la haine entre nos familles et en essayant de changer la tragédie qui se passe normalement, c'est-à-dire que la haine l'emporte et que nous on meurt. Non, on va essayer de faire en sorte que l'amour l'emporte sur la haine.
Tu viens de dévoiler la fin là.
L'une des fins possibles. C'est vrai que j'ai spoilé du Shakespeare, personne l'avait lu jusque là, merde. Et donc c'est un jeu de guessing où on a très peu de possibilités de communiquer directement, mais où on va essayer quand même de comprendre ce que l'autre veut faire. Donc on va pouvoir jouer avec Roméo et Juliette. Chacun, on va à chaque tour choisir une carte qu'on va jouer face cachée, qui va être le lieu dans lequel on va déplacer son personnage. Et comme Roméo et Juliette se baladent toujours avec un chaperon, on va aussi jouer une autre carte qui sera le chaperon qui va avec lui, qui va être un membre de sa famille les trois quarts du temps, ou des personnages neutres. Et une fois qu'on serait déplacé à l'endroit où on veut aller, on va vérifier si des membres des familles opposées se retrouvent au même endroit, et s'ils se retrouvent au même endroit...
Ça va mal. Hein.
Ça va mal, la jauge de haine va monter. Par contre, si Roméo et Juliette se retrouvent au même endroit, l'amour peut augmenter. Seulement si on a choisi en début de tour, communément, de se dire ce tour-ci, ça sera la passion. Parce que chaque tour, on peut choisir passion ou raison. C'est-à-dire que certains soirs, on va dire « Non, la chérie, je suis désolé, mais c'est la merde entre nos familles. Ça va être plutôt la raison ce soir. » Et là, même si on se retrouve à ce moment-là, par chance, l'amour ne pourra pas augmenter. Par contre, si on a choisi la passion, effectivement, l'amour va pouvoir grandir. Et chaque fois que l'amour va grandir, on va aussi avoir un événement qui va changer des choses. Soit un événement, un one-shot qui va se passer tout de suite, soit des conditions un petit peu qui vont changer durant la partie. Et il faut savoir que la jauge de haine n'a que 5 cases, alors que la jauge d'amour en a 10. Ça veut dire qu'on peut rapidement perdre et plus difficilement gagner. Mmh. Et on a toute une série de scénarios qui partent de l'initiation, où on a des événements plus simples et où on a une mise en place des personnages de départ qui est plus simple, jusqu'à une version très compliquée à la fin, où là, on est presque en mode télépathique. Et il va falloir vraiment tester la complicité du couple. Bah, il y a presque ça à la fin. Parce qu'en fait, on peut communiquer par des missives, ce qui sont des petits jetons qu'on s'envoie, et par l'utilisation d'une missive, on va pouvoir dire, je voudrais aller à tel endroit, ou alors je voudrais me déplacer avec tel personnage. Et en fonction de ça, l'autre va pouvoir nous répondre des choses. Il peut pas nous répondre directement, je veux y aller. Par contre, il peut nous dire, ah, tu vas sur le balcon de Juliette? Bon, bah, moi, je dirais passion. Et là, on comprend que lui, il peut y aller aussi, par exemple. Ça, c'est le truc le plus basique.
Et le fait de faire un jeu à deux, c'est, il y a un effet de, peut-être une mode en ce moment, quand même, du jeu à deux. Le jeu à deux a le plus le vent en poupe.
Alors, poser la question comme ça.
Ça s'est pas du tout présenté comme ça. C'est juste que quand Julien et Jean-Philippe sont venus nous présenter le jeu, on s'est dit, si en tout cas, faut faire un jeu à deux et coopératif, c'est celui-là.
Oui, c'est le jeu vous
c'est,
a plu.
C'est d'une telle
avant
évidence
de vous poser.
Que, enfin, voilà, c'est, ça raconte tellement facilement ce que la cohérence entre la thématique et la mécanique et le fait que ce soit à deux, que même si au départ on s'est pas du tout dit tiens on cherche un jeu à deux et on s'est même pas dit non plus je cherche un jeu coopératif. Donc voilà, c'était vraiment
de base on va jamais essayer d'aller dans les modes.
C'est
je pense.
Voilà, c'est oui, vraiment oui. Le projet qui vous a été proposé qui a emporté votre envie.
Ouais.
Et la localisation, vous y pensez?
On y pense et on fait plus qu'y penser.
Oui.
On aura des choses à vous dévoiler bientôt, qui sont pas encore finalisées, mais
une petite exclue, un thème, un nom, un pays.
Ah, des thèmes, il y en a, oui. Il y en a deux différents au moins.
Il y en a deux différents. Un pays, les deux plus avancés, ça serait États-Unis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Et pour revenir avant d'oublier Roméo et Juliette, il y a déjà quelque chose dans le calendrier de Silex pour le faire passer du stade prototype à plus tard.
En toute transparence, c'est un tout petit peu compliqué en termes de planning parce que la priorité, elle est évidemment sur Dreamscape et que c'est extrêmement important pour nous que ce soit le premier message qu'on envoie. Et en même temps, plus on tarde à le sortir et plus la structure coûte. Et donc on se pose aussi la question de comment est-ce qu'on peut, parce que du coup Roméo et Juliette sera distribué commerce et non pas KS, de comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mixer le tout. Donc la date n'est pas encore arrêtée. On sait déjà qu'il va très certainement être distribué en France, c'est sûr, par notre partenaire actuel, notre distributeur actuel. Après voilà, on n'a pas encore calé le planning. Évidemment aussi ça dépend du distributeur, c'est pas que nous, de son catalogue et de ses opportunités.
C'est Atalia, votre distributeur,
c'est Atalia, oui,
qu'on reçoit pendant le festival aussi.
Bonjour à lui.
On en parlera.
Il a le même niveau d'info et on est vraiment en toute transparence et on construit un petit peu ensemble aussi ces élans-là puisque c'est la première personne à nous avoir fait confiance aussi sur Dreamscape. Donc c'est aussi important qu'on puisse essayer d'accompagner son catalogue et son calendrier dans quelque chose d'assez logique.
Mais on peut quand même déjà dire qu'au plus tard.
Allez.
À peu près, ça serait début 2020.
D'accord, au plus tard. Ok.
Voilà.
Bon, on va vous remercier vraiment chaleureusement d'être venu nous voir et de nous donner toutes ces infos. Merci à Pierre, merci à Florian. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et puis rendez-vous sur notre page Tipeee et n'hésitez pas à tipper. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou bien un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.